Granville, scène de la vie privée et publique des animaux. Voyage d'un moineau de Paris à la recherche du meilleur gouvernement. George Sand. Les moineaux de Paris passent depuis longtemps pour les plus hardis et les plus effrontés oiseaux qui existent. Ils sont français. Voilà leurs défauts et leurs qualités en un mot. Ils sont enviés. Voilà l'explication de bien des calomnies. Ils vivent en effet sans avoir à craindre les coups de fusil. Ils sont indépendants, ne manquent de rien et sont sans doute les plus heureux entre tous les volatiles. Peut-être ne faut-il pas trop de bonheur à un oiseau. Cette réflexion, qui surprendrait chez tout autre, est naturelle à un friquet nourri de hautes philosophies et de petites graines. Car je suis un habitant de la rue de Rivoli, voletant dans la gouttière d'un illustre écrivain, allant de son toit sur les fenêtres des Tuileries, et comparant les soucis qui encombrent le palais aux roses immortelles qui fleurissent dans la simple demeure du défenseur des prolétaires, ces moineaux humains, ces passereaux, qui font les générations et desquels il ne reste rien. Engobant les miettes du pain et entendant les paroles d'un grand homme, je suis devenue très illustre parmi les miens, qui m'élurent en des circonstances graves et me confièrent la mission d'observer la meilleure forme de gouvernement à donner aux oiseaux de Paris. Les moineaux de Paris furent naturellement effarouchés par la Révolution de 1830, mais les hommes ont été si fort occupés de cette grande mystification qu'ils n'ont fait aucune attention à nous. D'ailleurs, les émeutes qui agitèrent le peuple ailé de Paris eurent lieu lors du choléra. Voici comment et pourquoi. Les moineaux de Paris, pleinement satisfaits par la desserte de cette vaste capitale, devinrent penseurs et très exigeants sous le rapport moral, spirituel et philosophique. Avant de venir habiter le toit de la rue de Rivoli, je m'étais échappée d'une cage où l'on m'avait mise à la chaîne et où je tirais un seau d'eau pour boire quand j'avais soif. Jamais ni Silvio Pellico ni Maroncelli n'ont eu plus de douleur au Spielberg que j'en endurais pendant 2 ans de captivité chez le grand animal qui se prétend le roi de la terre. J'avais raconté mes souffrances à ceux du faubourg Saint-Antoine, au milieu desquels je parvins à m'échapper, qui furent admirables pour moi. Ce fut alors que j'observai les mœurs du peuple oiseau. Je devinai que la vie n'était pas toute dans le boire et dans le manger. J'eus des opinions qui augmentèrent la célébrité que je devais à mes souffrances. On me vit souvent posée sur la tête d'une statue au palais royal, les plumes ébouriffées, la tête rentrée dans les épaules, ne montrant que le bec, rond comme une boule, l'œil à demi fermé, réfléchissant à nos droits, à nos devoirs et à notre avenir. Où vont les moineaux? D'où viennent-ils? Pourquoi ne peuvent-ils pas pleurer? Pourquoi ne s'organisent-ils pas en société comme les canards sauvages, comme les corbines? Et pourquoi ne s'entendent-ils pas comme elles, qui possèdent une langue sublime? Telles étaient les questions que je méditais. Quand les pierrots se battaient, ils cessaient leurs disputes devant moi, sachant que je m'occupais d'eux, que je pensais à leurs affaires, et ils se disaient: voilà le grand friquet! Le bruit des tambours, les parades de la royauté me firent quitter le palais royal. Je vins vivre dans l'atmosphère intelligente d'un grand écrivain. Sur ces entrefaites, il se passait des choses qui m'échappaient, quoique je les eusse prévues. Mais après avoir observé la chute imminente d'une avalanche, un oiseau philosophe se pose très bien sur le bord de la neige qui va rouler. La disparition progressive des jardins convertis en maisons rendait les moineaux du centre de Paris très malheureux et les plaçait dans une situation pénible, surtout évidemment inférieure à celle des moineaux du faubourg Saint-Germain, de la rue de Rivoli, du Palais Royal et des Champs-Élysées. Les moineaux des quartiers sans jardin n'avaient ni graines, ni insectes, ni vermisseaux. Enfin, ils ne mangeaient pas de viande. Ils en étaient réduits à chercher leur vie dans les ordures et y trouvaient souvent des substances nuisibles. Il y avait deux sortes de moineaux. Les moineaux qui avaient toutes les douceurs de la vie et les moineaux qui manquaient de tout. Enfin, des moineaux privilégiés et des moineaux souffrants. Cette constitution vicieuse de la cité des moineaux ne pouvait pas durer longtemps chez une nation de 200 000 moineaux effrontés, spirituels, tapageurs, dont une moitié pullulait heureuse avec de superbes femelles, tandis que l'autre maigrissait dans les rues, la plume défaite, les pieds dans la boue, sans cesse sur le qui-vive. Les friquets souffrants, tous nerveux, mais de gros becs endurcis, aux ailes rudes comme leurs voix mâles, formaient une population généreuse et pleine de courage. Ils allèrent chercher pour les commander un friquet qui vivait au faubourg Saint-Antoine, chez un brasseur, un friquet qui avait assisté à la prise de la Bastille. On s'organisa. Chacun sentit la nécessité d'obéir momentanément. Et beaucoup de Parisiens furent alors étonnés de voir des milliers de moineaux rangés sur les toits de la rue de Rivoli, l'aile droite appuyée à l'Hôtel de Ville, l'aile gauche à la Madeleine et le centre aux Tuileries. Les moineaux privilégiés, excessivement effrayés de cette démonstration, se virent perdus. Ils allaient être chassés de toutes leurs positions et refoulés sur les campagnes, où la vie est très malheureuse. Dans ces conjonctures, ils envoyèrent une élégante pierrette pour porter aux insurgés des paroles de conciliation. Ne valait-il pas mieux s'entendre que de se battre? Les insurgés m'aperçurent. Ah, ce fut un des plus beaux moments de ma vie, que celui où je fus élu par tous mes concitoyens pour dresser une charte qui concilierait les intérêts des moineaux les plus intelligents du monde, divisés pour un moment par une question de vivre, le fond éternel des discussions politiques. Les moineaux en possession des lieux enchantés de cette capitale, y avaient-ils des droits absolus de propriété? Pourquoi? Comment cette inégalité s'était-elle établie? Pouvait-elle durer? Dans le cas où l'égalité la plus parfaite régirait les moineaux de Paris, quelle forme prendrait ce nouveau gouvernement? Telles furent les questions posées par les commissaires des deux partis. Mais, me dirent les friquets, l'air, la terre et ses produits sont à tous les moineaux. Erreur, dirent les privilégiés. Nous habitons une ville, nous sommes en société, subissons-en les bonheurs et les malheurs. Vous vivez encore infiniment mieux que si vous étiez à l'état sauvage, dans les champs. Il y eut alors un gazouillement général qui menaçait d'étourdir les législateurs de la Chambre, lesquels, sous ce rapport, craignent la concurrence et tiennent à s'étourdir eux-mêmes. Il sortit quelque chose de ce tumulte. Tout tumulte chez les oiseaux comme chez les hommes annonce un fait. Un tumulte est un accouchement politique. On émit la proposition, approuvée à l'unanimité, d'envoyer un moineau franc, impartial, observateur et instruit à la recherche du droit animal et chargé de comparer les divers gouvernements. On me nomma. Malgré mes habitudes sédentaires, je partis en qualité de procureur général des moineaux de Paris. Que ne fait-on pas pour sa patrie? De retour depuis peu, j'apprends l'étonnante révolution des animaux, leur sublime résolution prise dans leur nuit célèbre au jardin des plantes, et je mets la relation de mon voyage sur l'autel de la patrie, comme un renseignement diplomatique dû à la bonne foi d'un modeste philosophe ailé. Chapitre 1. Le gouvernement formique. J'arrivai, non sans peine, après avoir traversé la mer, dans une île appelée assez orgueilleusement la vieille Formicalion par ses habitants. comme s'il y avait des portions du globe plus jeunes que les autres. Une vieille corbine instruite que je rencontrais m'avait indiqué le régime des fourmis comme le gouvernement modèle. Vous comprenez combien j'étais curieux d'étudier ce système et d'en découvrir les ressorts. Chemin faisant, je vis beaucoup de fourmis voyageant pour leur plaisir. Elles étaient toutes noires, très propres et comme vernies, mais sans aucune individualité. Toutes se ressemblaient. Qui voit une seule fourmi les connaît toutes. Elles voyagent dans une espèce de fluide formique qui les préserve de la boue, de la poussière, si bien que sur les montagnes, dans les eaux, dans les villes, rencontrez-vous une fourmi, elle semble sortir d'une boîte, avec son habit noir, bien brossé, bien net, ses pattes vernies et ses mandibules propres. Cette affectation de propreté ne prouve pas en leur faveur. Que leur arriverait-il donc sans ce soin perpétuel? Je questionnai la première fourmi que je vis. Elle me regarda sans me répondre. Je la crus sourde. Mais un perroquet me dit qu'elle ne parlait qu'aux bêtes qui lui avaient été présentées. Dès que je mis le pied dans l'île, je fus assaillie d'animaux étranges au service de l'État et chargée de vous initier aux douceurs de la liberté, en vous empêchant de porter certains objets, quand même vous les auriez en affection. Ils m'entourèrent et me firent ouvrir le bec pour voir s'il n'y avait pas des poisons que sans doute il est défendu d'introduire. Je levai mes ailes l'une après l'autre pour montrer que je n'avais rien dessous. Après cette cérémonie, je fus libre d'aller et venir dans le siège de l'empire formique, dont les libertés m'avaient été si fort vantées par la corbine. Le premier spectacle qui me frappa vivement fut celui de l'activité merveilleuse de ce peuple. Partout, des fourmis allaient et venaient, chargeant et déchargeant des provisions. On bâtissait des magasins, on débitait le bois, on travaillait toutes les matières végétales. Des ouvriers creusaient des souterrains, amenaient des sucres, construisaient des galeries, et le mouvement est si attachant pour ce peuple qu'on ne remarqua point ma présence. Des différents points de la côte, il partait des embarcations chargées de fourmis qui s'en allaient sur de nouveaux continents. Il arrivait des estafettes qui disaient que sur tel point, telle denrée abondait, et aussitôt on expédiait des détachements de fourmis pour s'en emparer. Et il s'en emparait avec tant d'habileté, de promptitude, que les hommes eux-mêmes se voyaient dévalisés sans savoir comment ni dans quel temps. J'avoue que je fus ébloui. Au milieu de l'activité générale, j'aperçus des fourmis ailées au milieu de ce peuple noir sans ailes. Quelle est cette fourmi qui se goberge et s'amuse pendant que vous travaillez? Dis-je à une fourmi qui restait en sentinelle. Oh, me répondit-elle. C'est une noble fourmi. Vous en compterez 500 ainsi, les patriciennes de l'Empire formique. Qu'est-ce qu'une patricienne, dis-je? Oh, me répondit-elle, c'est notre gloire à nous autres. Une fourmi patricienne, comme vous le voyez, a quatre ailes. Elle s'amuse, jouit de la vie et fait des enfants. À elle les amours, à nous le travail. Cette division est une des grandes sagesses de notre admirable constitution. On ne peut pas s'amuser et travailler tout ensemble. Chez nous, les neutres font l'ouvrage et les patriciennes s'amusent. Mais est-ce une récompense du travail? Pouvez-vous devenir patricienne? Ah bien oui, non, fit la fourmi neutre. Les patriciennes naissent patriciennes. Sans cela, où serait le miracle? Il n'y aurait plus rien d'extraordinaire. Mais elles ont aussi leurs obligations. Elles veillent à la sécurité de nos travaux et préparent nos conquêtes. La fourmi patricienne se dirigea de notre côté. Toutes les fourmis se dérangèrent et lui témoignèrent des respects infinis. J'appris qu'aucune des fourmis ordinaires, dites neutres, n'oserait disputer le pas à une patricienne, ni se permettre de se placer devant elle. Les neutres ne possèdent absolument rien. Travaillent sans cesse, sont bien ou mal nourris selon les chances. Mais les 500 patriciennes ont des palais dans les fourmilières. Elles y pondent des enfants qui sont l'orgueil de l'empire formique et possèdent des parcs de pucerons pour leur nourriture. J'assistais même à une chasse aux pucerons dans le domaine d'une patricienne, spectacle qui me fit le plus grand plaisir à voir. On ne saurait imaginer jusqu'où ce peuple a poussé l'amour pour les petits, ni la perfection qu'il a su donner aux soins avec lesquels il les élève. Comment les neutres les brossent, les lèchent, les lavent, les veillent et les arrangent, avec quelles admirables pensées de prévoyance elles les nourrissent et devinent les accidents auxquels ils sont exposés dans un âge si tendre. On étudie les températures, on les rentre quand il pleut, on les expose au soleil quand il fait beau. On les accoutume à faire jouer leurs mandibules, on les accompagne, on les exerce. Mais une fois grands aussi, tout est dit. Plus d'amour, plus de sollicitude. Dans cet empire, l'état le meilleur pour les individus est d'être enfant. Malgré la beauté des petits, la choquante inégalité de ces mœurs me frappa vivement. Je trouvais que les querelles des moineaux de Paris étaient des vétilles comparées aux malheurs de ces pauvres neutres. Vous comprenez que ceci, pour un friquet philosophe, n'était que la question même. Il y avait lieu d'examiner par quel ressort les 500 fourmis privilégiées maintenaient cet état de choses. Au moment où j'allais aborder la patricienne, elle monta sur une des fortifications de la cité, où se trouvaient quelques autres de son espèce, et où elle leur dit des mots en langue formique. Aussitôt, les patriciennes se répandirent dans la fourmilière. Je vis partir des détachements commandés par des patriciennes. Des neutres s'embarquèrent sur des pailles, sur des feuilles, sur des bâtons. J'appris qu'il s'agissait d'aller porter secours à quelques neutres attaqués à 2 000 pieds de là. Pendant cette expédition, j'entendis la conversation suivante entre deux vieilles patriciennes. Votre Seigneurie n'est-elle pas effrayée de la grande quantité de peuple qui va mourir de faim? Nous ne saurions le nourrir. Votre grâce ne sait donc pas que de l'autre côté de l'eau, il y a une fourmilière bien garnie et que nous allons l'attaquer, en chasser les habitants et y mettre notre trop-plein? Cette injuste agression était autorisée par le principe fondamental du gouvernement formique, dont la charte a pour premier article « Ôte-toi de là que je m'y mette ». Le second article porte en substance que ce qui convient à l'empire formique appartient à l'empire formique et que quiconque s'oppose à ce que les sujets formiques s'en emparent devient l'ennemi du gouvernement formique. Je n'osais pas dire que les voleurs n'avaient pas d'autres principes. Je reconnus l'impossibilité d'éclairer cette nation. Ce dogme sauvage est devenu l'instinct même des fourmis. Leur expédition fut consommée sous mes yeux. Au retour de la guerre, faite pour sauver les trois neutres compromises, on envoya des ambassadeurs examiner le terrain, les abords de la fourmilière à prendre et l'esprit des habitants. Bonjour, mes amis, dit la patricienne à des fourmis qui passaient. Comment vous portez-vous? Pardon, je suis occupée. Attendez donc, que diable, on se parle. Vous avez beaucoup de grains et nous n'en avons point, mais vous manquez de bois et nous en avons beaucoup. Changeons. Laissez-nous tranquilles, nous gardons nos grains. Mais il ne vous est pas permis de garder ce qui abonde chez vous quand nous en manquons chez nous. Cela est contre les lois du bon sens. Échangeons. Sur le refus de la fourmilière, la patricienne, qui se regarda comme insultée, expédia une feuille des plus solides, chargée de fourmis en formicalium. Les patriciennes dirent que l'honneur formique et la liberté commerciale étaient compromis par une fourmilière récalcitrante. Sur ce, l'eau fut couverte aussitôt d'embarcations et la moitié des neutres embarqués. Après 3 jours de manœuvre, les pauvres fourmis étrangères furent obligées de se disperser dans l'intérieur des terres, abandonnant leur fourmilière aux enfants de la vieille Formicalion. Une patricienne me montra 17 fourmilières ainsi conquises et où elles envoyaient leurs filles qui devenaient à leur tour patriciennes. Vous faites des choses souverainement infâmes, dis-je à la patricienne qui était venue offrir des bois pour des grains. Oh, ce n'est pas moi, dit-elle. Moi, je suis la plus honnête créature du monde. Mais le gouvernement fourmi est forcé d'agir dans l'intérêt de ces classes ouvrières. Ce que nous venons de faire était souverainement utile à leurs intérêts. On se doit à son pays. Mais je retourne dans mes terres pratiquer les vertus que Dieu impose à notre race. En effet, elle paraissait au premier abord la meilleure fourmi du monde. Vous êtes de fières sycophantes, m'écriai-je. Oui, me dit une autre patricienne en riant. Mais convenez que cela est beau, dit-elle en me montrant une file de patriciennes qui se promenaient au soleil dans l'éclat de leur puissance. Comment parvenez-vous à maintenir cet état contre nature, lui demandai-je. Je voyage pour mon instruction et voudrais savoir en quoi consiste le bonheur des animaux. Il consiste à se croire heureux, me répondit la patricienne. Or, chaque ouvrière de l'Empire formique a la certitude de sa supériorité sur les autres fourmis du monde. Interrogez-les. Toutes vous diront que nos fourmilières sont les mieux bâties, que, dans quelque endroit de la terre qu'elles se trouvent, si quelqu'un l'insulte, l'insulte est épousée par l'Empire formique. Il me semble que cet orgueil satisfait ne donne pas de grain. Ceci ressemble à une raison, mais vous parlez en moineau. Je vous avoue que nous n'avons pas du grain pour tout le monde. Mais ici, tout le monde est convaincu que nous sommes occupés à en chercher. Et tant que nous pourrons de temps en temps conquérir une fourmilière, tout ira bien. Mais ne craignez-vous pas que les autres fourmilières averties ne se coalisent contre vous, afin d'empêcher que vous ne les dévoriez ainsi? Oh non! L'un des principes de la politique formique est d'attendre que les fourmilières se chamaillent entre elles pour aller prendre possession d'un territoire. Et quand elles ne se chamaillent pas? Ah, voilà! Les patriciennes ne sont occupées qu'à fournir aux fourmilières étrangères les occasions de se chamailler. Ainsi, la prospérité de l'Empire formique se fonde sur les divisions intestines des autres fourmilières. Oui, seigneur Moineau, voilà pourquoi nos ouvrières sont si fières d'appartenir à l'Empire formique et travaillent avec tant de cœur en chantant « Rule Formicalia ». Ceci, me dis-je en partant, est contraire à la loi animale. Dieu me garde de proclamer de tels principes. Ces fourmis n'ont ni foi ni loi. Que deviendraient les moineaux de Paris, qui sont déjà si spirituels, au cas où quelques grands moineaux les organiseraient ainsi? Que suis-je? Je ne suis pas seulement un friquet parisien. Je me suis élevé par la pensée à toute l'animalité. Non. L'animalité n'est pas faite pour être gouvernée ainsi. Ce système n'est que tromperie au profit de quelques-uns. Je partis, vraiment affligée de la perfection de cette oligarchie et de la hardiesse de son égoïsme. Chemin faisant, je rencontrai sur la route un prince d'Anglos-Bourdon qui allait presque aussi vite que moi. Je lui demandai la raison de son empressement. L'infortuné m'apprit qu'il voulait assister au couronnement d'une reine. Charmé de pouvoir observer une si belle cérémonie, j'accompagnais ce jeune prince plein d'illusions. Il avait l'espoir d'être le mari de la reine, étant de cette célèbre famille de Glosse-Bourdon, en possession de fournir des maris aux reines, et qui leur en tient toujours un tout prêt, comme on tenait à Napoléon un poulet tout rôti pour ses soupers. Ce prince, qui n'avait que ses belles couleurs pour toute fortune, quittait un pauvre endroit sans fleurs ni miel et comptait vivre dans le luxe, l'abondance et les honneurs. Chapitre 2 de la monarchie des abeilles. Instruit par ce que j'avais déjà vu dans l'Empire formique, je résolus d'examiner les mœurs du peuple avant d'écouter les grands et les princes. En arrivant, je heurtai une abeille qui portait un potage. Ah, je suis perdue, dit-elle. On me tuera. Ou tout au moins, je serai mise en prison. Et pourquoi, lui dis-je? Ne voyez-vous pas que vous m'avez fait répandre le bouillon de la reine, pauvre reine? Heureusement que la grande est chansonne, la duchesse des Roses aura peut-être envoyé dans plusieurs directions. Ma faute sera réparée, car je mourrai de chagrin d'avoir fait attendre la reine. Entends-tu, prince Bourdon? Dis-je au jeune voyageur. L'abeille se lamentait toujours d'avoir perdu l'occasion de voir la reine. Eh mon Dieu, qu'est-ce donc que votre reine pour que vous soyez dans une telle adoration? M'écriai-je. Je suis d'un pays, ma chère, où l'on se soucie peu des rois, des reines et autres inventions humaines. Humaines, s'écria l'abeille. Il n'y a rien chez nous, effrontés Pierrot, qui ne soit d'institution divine. Notre reine tient son pouvoir de Dieu. Nous ne pourrions pas plus exister en corps social sans elle que tu ne pourrais voler sans plume. Elle est notre joie et notre lumière, la cause et la fin de tous nos efforts. Elle nomme une directrice des ponts et chaussées qui nous donne nos plans et nos alignements pour nos somptueux édifices. Elle distribue à chacun sa tâche selon ses capacités. Elle est la justice même et s'occupe sans cesse de son peuple. Elle le pond et nous nous empressons de le nourrir car nous sommes créés et mis au monde pour l'adorer, la servir et la défendre. Aussi faisons-nous pour les petites reines des palais particuliers et les dotons-nous d'une bouillie particulière pour leur nourriture. À notre reine seule revient l'honneur de chanter et de parler. Elle seule fait entendre sa belle voix. Quelle est votre reine? Dit alors le prince de Glosbourdon. C'est, dit l'abeille, Titimalia 17, dite la Grande Ruchonne, car elle a pondu 100 peuples de 30 000 individus. Elle est sortie victorieuse de 5 combats qui lui ont été livrés par d'autres reines jalouses. Elle est douée de la plus surprenante perspicacité. Elle sait quand il doit pleuvoir. Elle prévoit les plus rudes hivers. Elle est riche en miel. Et l'on soupçonne qu'elle en a des trésors placés dans les pays étrangers. Ma chère, dit le prince de Glosbourdon, croyez-vous que quelque jeune reine soit sur le point d'être mariée? N'entendez-vous pas, prince, dit l'ouvrière, le bruit et les cérémonies du départ d'un peuple? Chez nous, il n'y a pas de peuple sans reine. Si vous voulez faire la cour à l'une des filles de Titimalia, dépêchez-vous, vous êtes assez bien de votre personne, et vous aurez une belle lune de miel. Je fus émerveillée du spectacle qui s'offrit à mes regards, et qui, certes, doit agir assez sur les imaginations vulgaires pour leur faire aimer les momeries et les superstitions qui sont l'esprit et la loi de ce gouvernement. 8 timbaliers à corselets jaunes et noirs sortirent en chantant de la vieille cité, que l'ouvrière me dit se nommer Sidracha, du nom de la première abeille qui prêcha l'ordre social. Ces 8 timbaliers furent suivis de 50 musiciens, si beaux que vous eussiez dit des saphirs vivants. Ils exécutaient l'air de Vive Titimalia, vive cette reine bon enfant qui mange et boit comme sang et qui pond tout autant. Les paroles ont été faites par tout le monde, mais l'air est dû à l'un des meilleurs faux-bourdons du pays. Après venaient les gardes du corps, armés d'aiguillons terribles. Ils étaient 200, allaient 6 par 6 sur 6 rangs de profondeur. Et chaque bataillon de 6 rangs avait en tête un capitaine qui portait sur son corselet la décoration du sidrac, emblème du mérite civil et militaire, une petite étoile en cire rouge. Derrière les porte-aiguillons allaient les essuyeuses de la reine, commandées par la grande essuyeuse. Puis la grande échansonne, avec 8 petites échansonnes, 2 par quartier. La grande maîtresse de la loge royale, suivie de 12 balayeuses, la grande gardienne de la cire et la maîtresse du miel. Enfin, la jeune reine, belle de toute sa virginité. Ses ailes, qui reluisaient d'un éclat ravissant, ne lui avaient pas encore servi. Sa mère, Titimalia XVII, l'accompagnait. Elle étincelait d'une poussière de diamants. Le cor de musique suivait et chantait une cantate composée exprès pour le départ. Après le cor de musique venaient 12 gros vieux bourdons qui me parurent être une espèce de clergé. Enfin, 10 ou 12 000 abeilles sortirent, se tenant par les pattes. Titimalia resta sur le bord de la ruche et dit à sa fille ces mémorables paroles. C'est toujours avec un nouveau plaisir que je vous vois prendre votre volée, car c'est une assurance que mon peuple sera tranquille et que... Elle s'arrêta dans son improvisation, comme si elle allait dire quelque chose de contraire à la politique, et reprit ainsi. Je suis certaine que, formée par nos mœurs, instruite de nos coutumes, vous servirez Dieu, que vous répandrez la gloire de son nom sur la terre, que vous n'oublierez jamais d'où vous êtes sortis, que vous conserverez nos saintes doctrines de gouvernement, notre manière de bâtir et d'économiser le miel pour vos augustes reines. Songez que sans la royauté, il n'y a qu'anarchie, que l'obéissance est la vertu des bonnes abeilles et que le palladium de l'État est dans votre fidélité. Sachez que mourir pour vos reines, c'est faire vivre la patrie. Je vous donne pour souveraine ma fille Talabat, ce qui veut dire Tarse agile. Aimez-la bien. Sur cette allocution, pleine des agréments qui distinguent l'éloquence royale, il y eut un hurrah. Un papillon, à qui cette cérémonie pleine de superstition faisait pitié, me dit que la vieille Titimalia donnait à ses fidèles sujets une double ration du meilleur miel, et que la police et le miel fin étaient pour beaucoup dans ses solennités, mais qu'au fond, elle était haïe. Dès que le jeune peuple partit avec sa reine, mon compagnon de voyage alla bourdonner autour de l'essaim en criant « Je suis un prince de la maison de Glosbourdon. Il y a des polissons de savants qui refusent à notre famille de savoir faire du miel. Mais pour te plaire aux merveilles de la race de Titimalia, je suis capable de faire des économies, surtout si vous avez une belle dot. Savez-vous, prince, lui dit alors la grande maîtresse de la loge royale, que chez nous, le mari de la reine n'est rien du tout. Il n'a ni honneur ni rang. Il est considéré comme un moyen malheureux dont il est impossible de se passer. Mais nous ne souffrons pas qu'il s'immisce dans le gouvernement. Tu t'immisceras. Viens, mon ange, lui dit gracieusement Talabat. Ne les écoute pas. Je suis la reine, moi. Je puis beaucoup pour toi. Tu seras d'abord le commandant de mes porte-aiguillons. Mais si en général tu m'obéis, je t'obéirai en particulier. Et nous irons nous rouler dans les fleurs, dans les roses, nous danserons à midi sur les nectaires embaumés, nous patinerons sur la glace des lys, nous chanterons des romances dans les cactus et nous oublierons ainsi les soucis du pouvoir. Je fus surpris d'une chose qui ne regarde pas le gouvernement, mais que je ne puis m'empêcher de consigner ici. C'est que l'amour est absolument le même partout. Je livre cette observation à tous les animaux en demandant qu'il soit nommé une commission pour examiner ce qui se passe chez les hommes. Ma chère, dis-je à l'ouvrière, ayez la bonté de dire à la vieille reine Titimalia qu'un étranger de distinction, un Pierrot de Paris, désirerait lui être présenté. Titimalia devait bien connaître les secrets de son propre gouvernement. Et comme j'avais remarqué le plaisir qu'elle prenait à bavarder, je ne pouvais m'adresser à personne qui me donnât de meilleurs renseignements. Le silence avec elle devait être aussi instructif que la parole. Plusieurs abeilles vinrent m'examiner pour savoir si je ne portais pas sur moi aucune odeur dangereuse. La reine était tellement idolâtrée de ses sujets qu'on tremblait à l'idée de sa mort. Quelques instants après, la vieille reine Titimalia vint se poser sur une fleur de pêcher où j'occupais une branche inférieure et où, par habitude, elle prit quelque chose. Grande reine, lui dis-je, vous voyez un philosophe de l'ordre des moineaux, voyageant pour comparer les gouvernements divers des animaux afin de trouver le meilleur. Je suis français et troubadour, car le moineau français pense en chantant. Votre Majesté doit bien connaître les inconvénients de son système. Sage moineau, je m'ennuierais beaucoup si je n'avais pas à pondre 2 fois par an. Mais j'ai souvent désiré n'être qu'une ouvrière, mangeant la soupe aux choux des roses, allant et venant de fleur en fleur. Si vous voulez me faire plaisir, ne m'appelez ni majesté ni reine. Dites-moi tout simplement princesse. Princesse, repris-je, il me semble que la mécanique à laquelle vous donnez le nom de peuple des abeilles exclut toute liberté. Vos ouvrières font toujours absolument la même chose. Et vous vivez, je le vois, d'après les coutumes égyptiennes. Cela est vrai, mais l'ordre est une des plus belles choses. Ordre public, voilà notre devise, et nous la pratiquons. Tandis que si les hommes s'avisent de nous imiter, ils se contentent de graver ces mots en relief sur les boutons de leurs gardes nationaux et les prennent alors pour prétexte des plus grands désordres. La monarchie, c'est l'ordre, et l'ordre est absolu. L'ordre à votre profit, princesse. Il me semble que les abeilles vous font une jolie liste civile de bouillies perfectionnées et ne s'occupent que de vous. Et que voulez-vous? L'État, c'est moi. Sans moi, tout périrait. Partout où chacun discute l'ordre, il fait l'ordre à son image. Et comme il y a autant d'ordre que d'opinion, il s'ensuit un constant désordre. Ici, l'on vit heureux parce que l'ordre est le même. Il vaut mieux que ces intelligentes bêtes aient une reine que d'en avoir 500, comme chez les fourmis, par exemple. Le monde des abeilles a tant de fois éprouvé le danger des discussions qu'il ne tente plus l'expérience. Un jour, il y eut une révolte. Les ouvrières cessèrent de recueillir la propolis, le miel, la cire. À la voix de quelques novatrices, on enfonça les magasins. Chacune d'elles devint libre et voulut faire à sa guise. Je sortis, suivie de quelques fidèles de ma garde, de mes accoucheuses et de ma cour, et vins dans cette ruche. Eh bien, la ruche en révolution n'eut plus de bâtiment, plus de réserve. Chacune des citoyennes mangea son miel, et la nation n'exista plus. Quelques fugitifs vinrent chez nous, transis de froid, et reconnurent leurs erreurs. Il est malheureux, lui dis-je, que le bien ne puisse s'obtenir que par une division cruelle en castes. Mon bon sens du moineau se révolte à cette idée de l'inégalité des conditions. Adieu, me dit la reine, que Dieu vous éclaire. De Dieu procède l'instinct. Obéissons à Dieu. Si l'égalité pouvait être proclamée, ne serait-ce pas chez les abeilles, qui sont toutes de même forme et de même grandeur, dont les estomacs ont la même capacité, dont les affections sont réglées par les lois mathématiques les plus rigoureuses. Mais vous le voyez, ces proportions, ces occupations ne peuvent être maintenues que par le gouvernement d'une reine. Et pour qui faites-vous votre miel? Pour l'homme, lui dis-je. Oh, la liberté! Ne travaillez que pour soi. S'agiter dans son instinct, ne se dévouer que pour tous, car tous, c'est encore nous-mêmes. Il est vrai que je ne suis pas libre, dit la reine, et que je suis plus enchaînée que ne l'est mon peuple. Sortez de mes états, philosophe parisien. Vous pourriez séduire quelques têtes faibles. Quelques têtes fortes, dis-je. Mais elle s'envola. Je me grattais la tête quand la reine fut partie. Et j'en fis tomber une puce d'une espèce particulière. Ô philosophe de Paris, je suis une pauvre puce, venue de bien loin sur le dos d'un loup, me dit-elle. Je viens de t'entendre et je t'admire. Si tu veux t'instruire, prends par l'Allemagne, traverse la Pologne et vers l'Ukraine, tu te convaincras par toi-même de la grandeur et de l'indépendance des loups, dont les principes sont ceux que tu viens de proclamer à la face de cette vieille radoteuse de rennes. Le loup, seigneur Moineau, est l'animal le plus mal jugé qui existe. Les naturalistes ignorent ces belles mœurs républicaines, car ils mangent les naturalistes assez osés pour venir au milieu d'une section. Mais ils ne pourront pas dévorer un oiseau. Tu peux sans crainte te poser sur la tête du plus fier des loups, d'un Gracchus, d'un Marius, d'un Régulus lupien, et tu contempleras les plus belles vertus animales pratiquées dans les steppes, où se sont établies les républiques des loups et des chevaux. Les chevaux sauvages, autrement dit, les tarpans, c'est Athènes. Mais les loups, c'est Sparte. Merci, Bûcheron. Que vas-tu faire? Sauter sur ce chien de chasse assis au soleil et d'où je suis sortie. Je volais vers l'Allemagne et vers la Pologne, dont j'avais tant entendu parler dans la mansarde de mon philosophe rue de Rivoli. Chapitre 3 de la République lupienne. Ô moineaux de Paris, oiseaux du monde, animaux du globe, et vous, sublime carcasse antédiluvienne, l'admiration vous saisirait tous si, comme moi, vous aviez été visiter la noble République lupienne, la seule où l'on dompte la faim. Voilà qui élève l'âme d'un animal. Quand j'arrivais dans les magnifiques steppes qui s'étendent de l'Ukraine à la Tartarie, il faisait déjà froid. Et je compris que le bonheur donné par la liberté pouvait seul faire habiter un tel pays. J'aperçus un loup en sentinelle. Loup, lui dis-je, j'ai froid et vais mourir. Ce serait une perte pour votre gloire, car je suis amené par mon admiration pour votre gouvernement, que je viens étudier pour en propager les principes parmi les bêtes. Mets-toi sur moi, me dit le loup. Mais tu me mangeras, citoyen. À quoi cela m'avancerait-il? Répondit le loup. Que je te mange ou ne te mange pas, je n'en aurai pas moins faim. Un moineau pour un loup, ce n'est même pas une seule graine de lin pour toi. J'eus peur, mais je me risquai, un vrai philosophe. Ce bon loup me laissa prendre position sur sa queue et me regarda d'un œil affamé, sans me toucher. Que faites-vous là? Lui dis-je pour renouer la conversation. Eh, me dit-il, nous attendons des propriétaires qui sont en visite dans un château voisin. Et nous allons, quand ils en sortiront, probablement manger des chevaux esclaves, de vils cochers, des valets et deux propriétaires russes. Ce sera drôle, lui dis-je. Ne croyez pas, animaux, que j'ai voulu bassement flatter ce sauvage républicain qui pouvait ne pas aimer la contradiction. Je disais là ma pensée. J'avais entendu tant maudire à Paris, dans les greniers et partout, l'abominable variété d'hommes appelés les propriétaires, que sans les connaître le moins du monde, je les haïssais beaucoup. Vous ne leur mangerez pas le cœur? Reprit Jean Badinan. Pourquoi? Me dit le citoyen loup. J'ai ouï dire qu'il n'en avait point. Quel malheur! S'écria le loup, c'est une perte pour nous. Mais ce ne sera pas la seule. Comment en fis-je? Hélas, me dit le citoyen loup, beaucoup des nôtres périront à l'attaque, mais la patrie avant tout. Il n'y a que 6 hommes, 4 chevaux et quelques effets potables. Ce ne sera pas assez pour notre section des droits du loup, qui se compose d'un millier de loups. Songe, moineau, que nous n'avons rien pris depuis 2 mois. Rien, lui dis-je. Pas même un prince russe. Pas même un tarpan. Ces gueux de tarpan nous sentent de 2 lieues. Eh bien, comment ferez-vous, lui dis-je? Les lois de la République ordonnent aux jeunes loups et aux loups valides de combattre et de ne pas manger. Je suis jeune, je laisserai passer les femmes, les petits et les anciens. Cela est bien beau, lui dis-je. Beau, s'écria-t-il. Non, c'est tout simple. Nous ne reconnaissons pas d'autre inégalité que celle de l'âge et du sexe. Nous sommes tous égaux. Pourquoi? Parce que nous sommes tous également forts. Cependant, vous êtes en sentinelle, monseigneur. C'est mon tour de garde, dit le jeune loup qui ne se fâcha point d'être monseigneurisé. Avez-vous une charte, lui dis-je. Qu'est-ce que c'est que ça, dit le jeune loup. Mais vous êtes de la section des droits du loup, vous avez donc des droits. Le droit de faire tout ce que nous voulons. Nous nous rassemblons dès qu'il y a péril pour tous les loups. Mais le chef que nous nous donnons redevient simple loup après l'affaire. Il ne lui passerait jamais par la tête qu'il vaut mieux que le loup qui a fait ses dernières dents le matin. Tous les loups sont frères. Dans quelles circonstances vous rassemblez-vous? Quand il y a disette et pour chasser dans l'intérêt commun, on chasse par section. Dans les jours de grande famine, on partage et les parts se font strictement. Mais sais-tu, moutarde de moineau, que dans les circonstances les plus horribles, quand par 10 pieds de neige sur les steppes, par la clôture de toutes les maisons, et quand il n'y a rien à croquer pendant des 3 mois, on se serre le ventre, on se tient chaud les uns contre les autres. Oui, depuis que la République des loups est constituée, jamais il n'est arrivé qu'un coup de dent ait été donné par un loup sur un autre. Ce serait un crime de lèse-majesté. Un loup est un souverain. Ainsi, le proverbe « les loups ne se mangent point » est-il universel et fait-il rougir les hommes? Et, lui dis-je pour l'égayer, les hommes disent que les souverains sont des loups. Mais alors, il ne saurait y avoir de punition si un loup a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, s'il n'a pas arrêté le gibier, s'il a manqué à flairer et à prévenir, il est battu. Mais il n'en est pas moins considéré parmi les siens. Tout le monde peut faillir, expier sa faute, n'est-ce pas obéir aux lois de la République? Hors le cas de chasse pour raison de fin publique, chacun est libre comme l'air, et d'autant plus fort qu'il peut compter sur tous au besoin. Voilà qui est beau, m'écriai-je, vivre seul, aidant tous. Vous avez résolu le plus grand problème. J'ai bien peur, pensais-je, que les moineaux de Paris n'aient pas assez de simplicité pour adopter un pareil système. Hurrah! Cria mon ami loup. Je volais à 10 pieds au-dessus de lui. Tout à coup, 1 000 à 1 200 loups, d'un poil superbe et d'une incroyable agilité, arrivèrent aussi rapidement que s'ils eussent été des oiseaux. Je vis de loin venir 2 Kibicks, attelés de 2 chevaux chacun. Mais malgré la rapidité de leur course, en dépit des coups de sabre distribués aux loups par les maîtres et par les valets, les loups se firent écraser sous les roues avec une sublime abnégation de leurs poils qui me parut le comble du stoïcisme républicain. Ils firent trébucher les chevaux, et dès que ces chevaux purent être mordus, ils furent morts. Si la meute perdit une centaine de loups, il y eut une belle curée. Mon loup, comme sentinelle, eut le droit de manger le cuir des tabliers. De vaillants loups, n'ayant rien, mangeaient les habits et les boutons. Il ne resta que 6 crânes qui se trouvèrent trop durs et que les loups ne pouvaient ni casser ni mordre. On respecta les cadavres des loups morts dans l'action. Ce fut l'objet d'une spéculation excessivement habile. Des loups affamés se couchèrent sous les cadavres. Des oiseaux de proie vinrent se poser dessus. Il y en eut de pris et de dévorés. Émerveillé de cette liberté absolue qui existe sans aucun danger, je me mis à rechercher les causes de cette admirable égalité. L'égalité des droits vient évidemment de l'égalité des moyens. Les loups sont tous égaux parce qu'ils sont tous également forts, comme me l'avait fait pressentir mon interlocuteur. Le mode à suivre pour arriver à l'égalité absolue de tous les citoyens est de leur donner à tous, par l'éducation, comme font les loups, les mêmes facultés. Dans les violents exercices auxquels s'adonnent ces républicains, tout être chétif succombe. Il faut que le louveteau sache souffrir et combattre. Ils ont donc tous le même courage. On ne s'en oublie point dans une position supérieure à celle d'autrui. On s'y dégrade dans la mollesse et le rien faire. Les loups n'ont rien et ont tout. Mais cet admirable résultat vient des mœurs. Quelle entreprise que de réformer les mœurs d'un pays gâté par les jouissances. Je devinais pourquoi et comment il y avait à Paris des moineaux qui mangeaient des vers, des graines, qui habitaient des oasis, et comment il y avait de pauvres moineaux forcés de picorer par les rues. Par quels moyens convaincre les moineaux heureux de se faire les égaux des moineaux malheureux? Quel nouveau fanatisme inventer? Les loups s'obéissent tout aussi durement à eux-mêmes que les abeilles obéissaient à leur reine et les fourmis à leur loi. La liberté rend esclave du devoir. Les fourmis sont esclaves de leurs mœurs et les abeilles de leur reine. Ma foi, s'il faut être esclave de quelque chose, il vaut mieux n'obéir qu'à la raison publique, et je suis pour les loups. Évidemment, Lycurgue avait étudié leurs mœurs, comme son nom l'indique. L'union fait la force. Là est la grande charte des loups, qui peuvent, seuls entre les animaux, attaquer et dévorer les hommes, les lions, et qui règnent par leur admirable égalité. Maintenant, je comprends la louve mère de Rome. Après avoir profondément médité sur ces questions, je me promis en revenant de les dégosiller à mon grand écrivain. Je me promettais aussi de lui adresser quelques questions sur toutes ces choses. Avons-le à ma honte ou à ma gloire, à mesure que je me rapprochais de Paris, l'admiration que m'avait inspirée cette race sauvage de héros lupiens se dissipait en présence des mœurs sociales, en pensant aux merveilles de l'esprit cultivé, en me souvenant des grandeurs où conduit cette tendance idéaliste qui distingue le moineau français. La fière république des loups ne me satisfaisait plus entièrement. N'est-ce pas, après tout, une triste condition que de vivre uniquement de rapine? Si l'égalité entre loups est une des plus sublimes conquêtes de l'esprit animal. La guerre du loup à l'homme, à l'oiseau de proie, au cheval et à l'esclave n'en reste pas moins, en principe, une abominable violation du droit des bêtes. Les rudes vertus d'une république ainsi faite, me disais-je, ne subsistent donc que par la guerre. Sera-ce le meilleur gouvernement possible, celui qui ne vivra qu'à la condition de lutter, de souffrir, d'immoler sans cesse et les autres et soi-même? Entre mourir de faim en ne faisant aucune œuvre durable, ou mourir de faim en coopérant, comme le moineau de Paris, à une histoire perpétuelle, à la trame continue d'une étoffe brodée de fleurs, de monuments et de rébus, quel animal ne choisirait le tout au rien, le plein au vide, l'œuvre au néant? Nous sommes tous ici-bas pour faire quelque chose. Je me rappelais les polypes de la mer des Indes, qui, fragments de matière mobile, réunion de quelques monades sans cœur, sans idée, uniquement douées de mouvement, s'occupent à faire des îles, sans savoir ce qu'ils font. Je tombai donc dans d'horribles doutes sur la nature des gouvernements. Je vis que beaucoup apprendre, c'est amasser des doutes. Enfin, je trouvai ces loups socialistes décidément trop carnassiers pour le temps où nous vivons. Peut-être pourrait-on leur enseigner à manger du pain, mais il faudrait alors que les hommes consentissent à leur en donner. Je devisais ainsi à tire-d'aile, arrangeant l'avenir à vol d'oiseau, comme s'il ne dépendait que des hommes d'abattre les forêts et d'inventer les fusils. Car je faillis être atteint par une de ces machines inexplicables. J'arrivais fatigué. Hélas, la mansarde est vide. Mon philosophe est en prison pour avoir entretenu les riches des misères du peuple. Pauvres riches, quel tort vous ont fait vos défenseurs! J'allais voir mon ami dans sa prison. Il me reconnut. D'où viens-tu, cher petit compagnon? S'écria-t-il. Si tu as vu beaucoup de pays, tu as dû voir beaucoup de souffrances qui ne cesseront que par la promulgation du code de la fraternité.